Vision d'histoire.
Bonjour et bienvenue à Vision d'Histoire. Je m'appelle Martine Dumais. Il me fait plaisir de vous retrouver comme à chaque semaine. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la question de l'enfance et de la jeunesse à Québec. En fait, comment on a encadré les jeunes, comment on les a aidés à travers notamment les refuges et les patronages en 1850 et 1950. Et pour nous entretenir de ce sujet, je reçois M. Dale Gilbert, qui est étudiant au doctorat en histoire à l'Université Laval. Bonjour Dale.
Bonjour Martine.
Merci d'être là.
Ça me fait très plaisir.
Donc, vous allez nous partager l'objet de votre sujet de doctorat actuellement, donc secourir et encadrer l'enfance et la jeunesse à Québec. Est-ce que je peux vous poser la question en préambule, pourquoi vous êtes intéressé à cette question?
Bien, cette question, c'est la question large des services sociaux à l'enfance et à la jeunesse. Depuis l'été 2004 que j'ai eu la chance de travailler là-dessus, j'avais été engagé entre mon baccalauréat et ma maîtrise par Mme Joanne Daigle, que vous avez reçue plus tôt dans la saison, à travailler sur les écoles de réforme et les écoles d'industrie. Et puis, très, très rapidement, je me suis attaché à ce sujet-là, à la notion de l'assistance dans la ville de Québec. Et puis, j'en ai changé le sujet de maîtrise. J'ai travaillé sur ce sujet pour la maîtrise. Et maintenant, je poursuis au sein d'un groupe de recherche sur toujours cette notion de services sociaux à l'enfance et à la jeunesse.
Et vous avez d'ailleurs, je crois, collaboré à une exposition qui a eu lieu à Gabriel Leroy il y a quelque temps.
Oui, bien, dans le cadre du 400e, on a voulu s'impliquer, sortir des murs de l'université pour diffuser au public ce que nous avions fait comme travaux de recherche. Et donc, à l'été dernier, à Gabriel Leroy, une exposition qui s'appelait « Naître et grandir à Québec » entre 1850 et 1950, où les gens ont pu voir l'étendue, les résultats de notre grand recensement d'œuvres et de services à l'enfance et à la jeunesse que nous avions fait, dont les refuges et les patronages faisaient partie.
Et cette question, donc, de « Naître et grandir à Québec », c'est un petit peu la problématique donc, du groupe de recherche, mais c'est aussi, de façon plus globale, ce qui vous intéresse dans vos travaux personnels.
Oui. Oui, la grande question qui nous intéresse, c'est que signifie naître et grandir à Québec durant ce siècle-là, qui est 1850-1950?
Jusqu'à la Révolution tranquille ou à peu près.
Environ, oui. Il y a trois grands volets dans ce projet-là, santé, éducation et services sociaux, duquel je fais partie. Et donc, cette grande question-là, que signifie naître et grandir, moi, je la regarde sous la lorgnette de l'assistance. Donc, comment se développent les œuvres et les services destinés aux enfants, aux adolescents, aux jeunes adultes, les formes d'action, donc les types d'œuvres et de services qui sont mis sur pied, les acteurs en présence, les clientèles que l'on cible et les clientèles que l'on rejoint, parce que souvent, il y a une différence entre...
Encore aujourd'hui, oui. Entre la théorie et la pratique, il y a souvent une différence.
Et puis aussi la disposition dans l'espace. De par notre centre de recherche, qui est le CIEC, le Centre interuniversitaire d'études québécoises, on s'intéresse beaucoup au fait spatial. Donc, où furent fondées ces œuvres et services, ces refuges et patronages? Et s'ils déménagent, où vont-ils et pourquoi? Pour voir comment se spatialise l'assistance à Québec.
Et dans ce cadre-là, vous avez dû vous intéresser donc à des œuvres qui sont des œuvres privées, des œuvres religieuses, oui. Mais aussi des œuvres liées à l'État, j'imagine.
Oui, des statistiques gouvernementales, des rapports annuels, par exemple de l'assistance publique, des organismes parapublics, pourrait-on dire, comme Centraide ou le Conseil central des œuvres, qui est son ancêtre dans les années 40. Donc, autant nous avons pu passer de longues et des bonnes heures dans les centres d'archives des congrégations religieuses de la région et de la ville, autant que nous avons été du côté public dans les archives nationales ici à Québec.
Et donc, vous allez nous partager vos résultats de recherche à travers deux émissions selon un plan très simple, dans le fond.
Oui. En fait, deux types d'œuvres et de services très intéressants qui, à prime abord, on ne les mettrait pas côte à côte, les refuges et les patronages, mais il y a des liens très intéressants à faire entre les deux.
Et donc, on va commencer par regarder le contexte global et après ça, s'intéresser aux refuges et aux patronages. Quand on parle d'un laps de temps d'un siècle de 1850 à 1950, il y a quand même une évolution dans la ville de Québec pendant ce siècle-là.
Oui, Québec bouge beaucoup dans ce siècle-là. À partir, grosso modo, du deuxième quart du 19e siècle, à partir de 1825 environ, Québec entre dans une période d'urbanisation intense. La population croît rapidement. L'espace construit, l'espace habité se déploie beaucoup. La majorité de la population, c'est des ouvriers peu qualifiés qui sont sensibles aux aléas de l'économie. Et puis, oui, la ville se développe beaucoup, mais c'est très peu réglementé à l'époque. Hein. Donc, problème d'entassement, d'insalubrité, l'hygiène qui est coup-ci, coup-ça, selon les secteurs de la ville. Dans le bas de la ville, c'est très, très déplorable. Donc, un lot, beaucoup d'épidémies, beaucoup d'incendies qui déciment les quartiers populaires. Donc, ça produit leur lot d'orphelins, d'enfants négligés, d'enfants abandonnés. Et de plus, dans la seconde moitié de ce siècle-là, du 19e siècle, les piliers de l'économie de Québec, qui étaient la construction navale ou aussi le commerce de bois, vont s'effondrer. Et donc, le chômage va faire en sorte que de plusieurs familles vont aller dans de plus en plus miséreuses et tout, ce qui n'est rien pour améliorer la situation des enfants.
Et on sait qu'au 19e siècle, il y a plus d'anglophones qu'il y en avait aujourd'hui. C'est une ville qui est plus diversifiée, dans le
beaucoup
fond, de certaines façons.
Oui, en 1846, 40% des habitants de Québec sont anglophones. Là, on n'a plus cette perception-là d'une communauté anglophone active, mais encore au 19e siècle, elle est très, très active. On va le voir par certains exemples qu'on ne va pas rapporter tout à l'heure. La communauté anglophone, la communauté anglo-protestante, en fait, va être très active pour secourir ces gens qui sont aussi, peuvent être touchés par la misère.
Et au 20e siècle, il y a une autre crise qui va faire des ravages, c'est la grande crise économique des années 30.
Oui, la grande crise des années 30 qui n'aidera en rien. Alors qu'au début du 20e siècle, le portrait économique s'était amélioré un petit peu. Les autorités municipales procèdent à une reconversion économique, en quelque sorte, autour du port, autour de l'industrie du cuir, de la chaussure. Hein. Les habitants de la Basse-Ville connaissent toutes les manufactures qu'il y avait dans le temps, la mine de corsette, hein, etc. Et la crise va mettre le système d'assistance à dure épreuve, un système d'assistance qui est encore plutôt traditionnel, hein, qui reposait sur la famille, sur la paroisse et tout. Et donc, plusieurs épisodes de crise du logement reliés à la crise des années 30, oui. Problème d'hygiène, l'eau, elle n'est chlorée qu'en 1929. C'est aussi seulement en 1929 qu'un système de collecte des ordures est organisé à Québec. Donc, oui, l'économie s'améliore, la population va croître, mais l'hygiène publique ne s'améliore pas au même rythme. Et donc, la santé de la population ne le fait pas aussi au même rythme.
Et si on revient justement à ces formes d'assistance au 19e siècle, est-ce que vous pouvez nous parler du développement de ces premières formes d'assistance au 19e siècle? Il y en existait avant le 19e siècle, bien
oui.
Évidemment.
Oui. Depuis la Nouvelle-France, il y a des notions d'assistance ici. Mais jusqu'à temps que ce modèle-là soit bouleversé par l'urbanisation, par l'industrialisation au 19e siècle, le système repose, comme je le disais tout à l'heure, sur la famille et la paroisse. Ce sont la famille et la paroisse qui sont responsables du soin des pauvres, des malades, des infirmes, des orphelins, etc.
Et les communautés religieuses, d'une certaine façon,
ouais,
aussi.
Dans les cas les plus graves, dans les cas les plus difficiles, il y a certaines institutions qui peuvent subvenir aux besoins, comme par exemple ici à Québec, l'Hôpital Général ou encore l'Hôtel-Dieu. Mais sinon, grosso modo, ça appartient à la famille et à la paroisse. Et lorsqu'on va voir que la ville va se développer beaucoup, ce modèle-là ne pourra plus suivre parce que les réseaux traditionnels d'entraide qui est la famille, bien souvent, on arrive de la campagne, on n'est plus entouré de sa famille élargie. Donc, toute cette notion traditionnelle d'assistance va s'effriter et le modèle devra s'adapter. Donc, on va voir apparaître une multitude de nouvelles œuvres. Elles vont se multiplier et en se multipliant, elles vont se spécialiser, ces œuvres, de plus en plus.
Et si on regarde le cas précis de l'enfance et de l'adolescence, vous avez mentionné que le modèle de l'assistance est adapté à l'urbanisation, à la ville, aux nouvelles réalités. Mais dans le cas de l'enfance et de l'assistance, là, il y a des phénomènes aussi nouveaux liés à cette urbanisation.
Oui, on distingue de plus en plus deux grandes filières d'intervention, alors qu'auparavant, on mettait tous les enfants en difficulté dans les hôpitaux généraux, à l'Hôtel-Dieu, dans certaines grandes institutions. On commence à distinguer au 19e siècle deux grandes filières. Tout d'abord, celle de la délinquance, hein, de la criminalité, autant de sa réforme que de sa prévention. On travaille en amont et en aval. Et l'autre grande filière d'intervention, ce sera celle de l'assistance, hein, qui regroupe autant les enfants abandonnés, orphelins, les clientèles, les groupes d'enfants, de jeunes adolescents, de jeunes adultes qu'on désire encadrer, divertir, secourir. Et autant l'une que l'autre seront investies par des groupes d'acteurs bien précis. Si l'État va s'occuper beaucoup plus du volet criminalité avec des prisons de réforme, avec des écoles de réforme, des écoles d'industrie, eh bien, le deuxième volet de l'assistance, eh bien là, ce sera vraiment des combinaisons très, très multiples d'acteurs qui vont s'impliquer dans ce grand domaine qui est l'assistance.
Thank you.
Vous écoutez Vision d'Histoire et je suis en compagnie de Dale Gilbert. Nous intéressons à secourir et encadrer l'enfance et la jeunesse à Québec au milieu du 19e siècle. Dale Gilbert, donc, on parle d'une nébuleuse d'œuvres et de services dont font partie les refuges et les patronages dont on va s'entretenir tout à l'heure. Mm-hmm. Donc, cette nébuleuse d'œuvres, il y a aussi des acteurs en présence.
Oui. On ne peut étudier l'assistance en séparant les œuvres et les services, celles qui sont laïques, celles qui sont religieuses, celles qui sont francophones et anglophones. Les combinaisons sont extrêmement multiples. S'il y a bien une chose qu'on a appris depuis 2004 sur les services sociaux à Québec, c'est que les combinaisons sont inextricables. Et donc, congrégations religieuses, prêtres, prêtres individuels, des philanthropes, ce qu'on appelle des dames patronesses, hein, des dames des classes sociales plus aisées qui fondent des œuvres, qui gèrent des œuvres, hein, qui gèrent des budgets, des clientèles et tout. Eh bien, tous ces gens-là collaborent ensemble, tissent des collaborations. Certains gèrent, les autres assistent et vice-versa. Et donc, la ville n'intervenant très, très peu dans le domaine de l'assistance, hein, la philosophie à l'époque, c'est que l'assistance est du domaine privé. Hein, la famille, la paroisse, les citoyens ordinaires. Et donc, à Québec, tous ces acteurs-là dont je viens de faire mention vont prendre les problèmes à bras-le-corps et vont fonder une suite d'œuvres et de services. Hein, donc, des orphelinats, des crèches dans le sens québécois du terme, c'est-à-dire des orphelinats pour des enfants en très bas âge.
Oui, parce qu'en Europe, c'est pas le même
terme. C'est des garderies, c'est ça. Donc, on aura aussi des maternités pour filles-mères, hein, l'hôpital de la Miséricorde, des Sœurs du Bon Pasteur, des écoles de réforme, des écoles d'industrie, des jardins d'enfance, des garderies à proprement parler, des services d'adoption, des gouttes de lait, et puis des refuges et des patronages.
Et dans les patronages, on pense notamment à toute la part de la communauté des Pères Saint-Vincent-de-Paul.
Oui. Oui, lorsqu'on pense à patronage, on pense patro des religieux de Saint-Vincent-de-Paul. C'est vraiment, ce sont des acteurs majeurs à Québec. Mais il y aura aussi eu d'autres exemples de patronage qui n'ont pas été gérés par les pères. Il faudra, hein,
on va
en parler, oui.
Tout à fait. Donc, si on revient pour l'instant au refuge,
oui.
Donc, qu'est-ce qu'un refuge dans la définition, je dirais, de base que vous utilisez pour vos recherches?
Oui. Lorsqu'on s'est assis, après avoir fait notre grand recensement des œuvres, avec notre liste, on en avait 108 environ, on a procédé à une classification. Et ce qu'on a défini comme refuge, c'est un petit peu plus précis parce que, inévitablement, toute œuvre d'assistance pourrait être considérée comme un refuge. À la limite, un orphelinat, on pourrait le considérer
dépendant
comme un refuge.
Dépendant de la définition, oui.
Exactement. Nous, ce qu'on considère comme un refuge, c'est les gîtes pour adolescents et jeunes adultes qui sont en difficulté ou qui sont en voie de l'être, hein. Donc, on fait vraiment une distinction avec les institutions réservées à l'enfance, comme les orphelinats, par exemple. Donc, ce qu'on considère comme refuge, c'est une espèce de combinaison entre les centres d'accueil que l'on connaît aujourd'hui et des maisons de pension, des maisons de chambre. Elles sont majoritairement de petite taille. La capacité va aussi entre une vingtaine, une trentaine de personnes environ. Et puis, on va offrir le gîte, donc le toit, la nourriture et parfois, et même souvent, un service d'orientation professionnelle, hein, de placement en emploi. Donc, c'est ce qu'on considère comme un refuge.
Et ces refuges-là, est-ce qu'ils sont strictement pour les garçons ou pour les garçons et les filles, tout en sachant que c'est probablement séparé si les deux existent, là?
Oui, il y en a eu pour les deux sexes. Évidemment, ce sont des institutions séparées. Celles pour les filles, ce sont uniquement pour les filles et idem pour les garçons. Par contre, il y en a eu beaucoup plus pour les jeunes filles, hein? Parce qu'incidemment, les refuges, la seconde appellation, l'appellation non officielle qu'on leur donne dans plusieurs documents, on les appelle les foyers de protection de la jeune fille, hein? La jeune fille, c'est vraiment une clientèle sociale, entre guillemets, beaucoup plus sensible. La jeune fille seule, sans protection, elle attise les craintes d'immoralité, de grossesse hors mariage, et donc il faut qu'on l'encadre, cette jeune fille seule. Et au 19e, au 20e siècle, plusieurs jeunes filles vont arriver de la campagne pour venir travailler. Souvent sur la terre, il n'y a pas assez d'emploi, il n'y a pas assez d'argent, on envoie des enfants venir travailler en ville. Et la jeune fille qui débarque à la gare du palais, sans famille, sans rien, eh bien, on va se rendre compte qu'il faut qu'on l'encadre, parce que sinon, elle peut sombrer, elle peut entrer dans des problèmes assez rapidement, parce qu'il y a des gens qui peuvent exploiter cette innocence-là.
Et quel a été le premier témoignage de refuge qu'on connaisse au 19e siècle à Québec?
Le premier exemple que l'on tire, c'est l'asile Sainte-Madeleine, des Sœurs du Bon Pasteur. À l'époque, hein, à la sortie des institutions, que ce soit la prison, que ce soit les orphelinats ou les écoles d'industrie, il n'y a presque aucune mesure de suivi des personnes. Et donc, un groupe de personnes, à la tête de Georges Muir, hein, un acteur influent de la société Saint-Vincent-de-Paul à l'époque, va avoir l'idée d'ouvrir un refuge pour les dames qui sortent de prison et pour les jeunes filles qui sont en difficulté, jeunes filles entre 14 et 21 ans environ. Il va demander à une dame du nom de Marie Fitzbach, hein, que nous connaissons bien, et ses consœurs, de diriger l'asile Sainte-Madeleine. Hein, quelques années plus tard, elles prendront le voile, deviendront les Sœurs du Bon Pasteur en 1856. Et donc, l'asile Sainte-Madeleine, vraiment le premier exemple de refuge où l'on accueille les jeunes filles en fugue, les jeunes filles en comportement rebelle, celles qui sont en difficulté familiale ou en conflit avec leurs parents, celles qui souffrent de problèmes d'alcoolisme psychologique, on va les accueillir là, logées, nourries, parfois instruites, si on s'aperçoit qu'elles ont une carence dans ce domaine-là. Et cette maison sera jusqu'en 1962, sera active jusqu'en 1962. Donc, ça fait partie des foyers à très, très longue... ils sont nobles de par son existence, de par sa longévité.
Et cet asile Sainte-Madeleine était situé géographiquement où? Est-ce qu'il a toujours été à la même place durant un siècle?
Non, à ses tout débuts, il était sur la rue Richelieu, dans Saint-Jean-Baptiste, puis assez rapidement, il a déménagé dans ce qu'on pourrait appeler le quadrilatère Bon Pasteur, hein, Saint-Amable, Berthelot, tout ça, là, tout près du complexe G aujourd'hui. C'est vraiment la plupart des maisons, du Bon Pasteur.
Où on trouve la chapelle historique du Bon Pasteur.
Exactement, c'est ça. Donc, l'asile Sainte-Madeleine a été situé là. D'autres de leurs œuvres ont été dans le coin. C'est pour ça qu'on utilise le terme quadrilatère Bon Pasteur.
Et donc, cet asile Sainte-Madeleine, c'est le premier, mais ce n'est pas le dernier refuge pour jeunes filles. Il y a donc d'autres foyers de protection de la jeune fille. Est-ce que vous pourriez nous parler d'autres exemples?
Oui, il y a une toile, un ensemble de refuges qui est très intéressant, qui s'est développé dans Saint-Roch. Hein, Saint-Roch, qui est le quartier de centre-ville. Et donc, on parlait tout à l'heure des jeunes filles qui arrivaient de la campagne, qui venaient travailler en ville. Lorsque ces jeunes filles débarquent à la gare du Palais, elles sont dans Saint-Roch. Hein. L'emploi est majoritairement dans Saint-Roch, de par les commerces et tout. Les logements abordables, hein, les logements décents aussi, sont dans Saint-Roch. Et donc, très, très rapidement, la clientèle a encadré les jeunes filles qui sont à protéger, à encadrer. Elles sont dans Saint-Roch. Et donc, il y aura la fondation d'une œuvre maîtresse et de plusieurs maisons connexes pour répondre aux besoins. Cette œuvre maîtresse dans Saint-Roch est l'œuvre Notre-Dame du Bon Conseil, fondée en 1920 par un abbé de Saint-Roch, l'abbé Chapelot, qui sera ensuite dirigé par une communauté religieuse, puis qui passera éventuellement à des laïcs. Donc, on voit vraiment les mélanges d'acteurs en présence. Au tout début, l'abbé Chapelot désire seulement ouvrir un service de placement pour les jeunes filles. Mais très, très rapidement, l'œuvre Notre-Dame du Bon Conseil va aussi recevoir les jeunes filles malades qui arrivent pour pouvoir les placer dans les hôpitaux. Il va recevoir les jeunes filles qui sont enceintes, non mariées, va pouvoir les faire placer à l'hôpital de la Miséricorde, dirigé par les Sœurs du Bon Pasteur. On va recevoir les parents dont les jeunes filles sont en fugue pour aider à les retrouver, imaginez. Donc vraiment, l'œuvre Notre-Dame du Bon Conseil en ratisse de plus en plus large et devient une œuvre phare en tant que refuge à Québec. Et les besoins seront tellement grands qu'on n'aura presque pas le choix d'ouvrir quelques maisons connexes dans les rues environnantes, sur Duroy, sur Saint-François, notamment la maison Sainte-Bernadette en 1934. En pleine crise économique des années 30, l'œuvre Notre-Dame du Bon Conseil déborde littéralement. Et donc, la maison Sainte-Bernadette est ouverte pour accueillir, loger certaines jeunes filles qui sont là, parce que ces œuvres-là vont non seulement aider en emploi, mais vont en accueillir, loger, nourrir pendant quelques semaines, un mois, le temps que la jeune fille se trouve quelque chose. Il y aura aussi l'hôtellerie Notre-Dame dans les années 40, qui est une maison beaucoup plus pour les jeunes filles qui sont stables et autonomes. Donc, on s'est aussi spécialisé dans cette toile de réseau de refuge de Saint-Roch. Et même, on ouvrira un restaurant, peut-être que certains s'en souviennent, le Buffet Rouge, sur la rue de la Couronne en 44, pour donner des revenus aux œuvres, hein, pour financer toutes ces actions-là, et aussi pour donner de l'emploi à certaines des pensionnaires qui sont dans les maisons du réseau de l'œuvre Notre-Dame du Bon Conseil. Donc vraiment, dans Saint-Roch, une toile de refuge.
Et donc là, on est vraiment, comme vous le dites, là, dans le quartier de Saint-Roch, mais il y a d'autres coins dans la basse ville. Est-ce qu'il y a aussi des œuvres comme à Saint-Sauveur, Saint-Malo, ou si on a concentré dans Saint-Roch essentiellement?
Ce dont on s'aperçoit lorsqu'on étudie la spatialisation dans l'espace urbain des refuges, c'est qu'ils sont majoritairement concentrés dans les quartiers du centre-ville à vocation commerciale. Aucun refuge vraiment là, légalement constitué n'a été dans Saint-Sauveur. On n'en a pas recensé. Hein. Saint-Sauveur, quartier plus résidentiel, c'est l'autre quartier du centre-ville. À Saint-Sauveur, avec un grand A, l'autre quartier, on n'en a pas recensé moins d'emplois, moins de vocation commerciale. Les autres refuges sont situés majoritairement dans le Vieux-Québec, hein, dans le Québec intramuros, entre les murs. On aura notamment l'œuvre de la préservation de la jeune fille. Hein, ce nom-là est très, très évocateur pour la philosophie d'action. Et sinon, ailleurs en ville, très, très peu. Certaines exceptions, la villa Notre-Dame de Sillery, à Sillery, bien évidemment, mais ça, on suppose que c'est un peu un refuge hors norme pour une clientèle plus fortunée de ce que les sources nous apprennent. Mais sinon, en dehors de l'espace urbain, comme Alimoulou, par exemple, oui, un quartier populaire comme Saint-Sauveur, mais seulement un refuge recensé, et un refuge dont on dit qu'il est vraiment de dernier recours. Ce sont les servantes du 5 heures de mairie qui dirigent ce refuge-là dans les Moulous. Et on accepte les jeunes filles qui n'ont pas trouvé de place ailleurs. Donc, c'est vraiment un refuge de dernier recours dans les années 40.
Thank you.
Dave Gilbert, vous nous avez mentionné qu'il y avait plusieurs œuvres dans le quartier Saint-Roch. Vous avez fait allusion à celle du Vieux-Québec, mais vous n'avez pas dit beaucoup de choses.
Oui, une autre œuvre qui a, de par sa longévité, qui témoigne de son importance, l'œuvre de la préservation de la jeune fille, qui existait entre 1906 et 1976. Elle a occupé différents endroits dans le Vieux-Québec.
76?
76, hein, c'est jusqu'à tout récent. Tout comme l'œuvre Notre-Dame du Bon Conseil, qui ferme aussi, elle aussi, en 1976.
On est au-delà de la Révolution tranquille.
Au-delà, là. À l'époque, l'œuvre Notre-Dame du Bon Conseil, elle ferme pour accueillir la Caisse populaire de Saint-Roch, là, qui on connaît encore aujourd'hui, les locaux, là, qui prend la place à l'époque. Et donc, d'ailleurs, un des locaux qui sera occupé par l'œuvre de la préservation de la jeune fille, ce sera l'auberge de jeunesse encore, qui est sur Sainte-Ursule aujourd'hui. Si on se promène si on fait le tour de l'auberge de jeunesse aujourd'hui, dans un des encadrements de pierre, c'est gravé le foyer. C'est une trace de cet ancien refuge-là. Ce qu'il a de particulier, c'est que, alors que certains refuges accueillent à plus court terme ou à long terme, selon ce qu'on veut, accueillir seulement les jeunes filles pour 2-3 jours, le temps de les orienter, ou quelques mois si elles sont en difficulté, l'œuvre de la préservation de la jeune fille fera les deux aspects de la question. On va accueillir les jeunes filles autant à court terme qu'à long terme. Mais la spécificité, les religieuses qui dirigent l'œuvre à l'époque, les servantes du Seigneur de Marie, vont demander à ce que les jeunes filles qui arrivent à l'œuvre aient un certificat de bonne conduite délivré par le curé de leur paroisse d'origine. Donc, on essaie de se spécialiser, on laisse les clientèles plus difficiles à d'autres œuvres ou à d'autres acteurs dont on sait qu'ils sont spécialisés là-dedans, notamment les sœurs du bon pasteur, qui ont une bonne expertise dans l'assistance aux gens en difficulté. Donc, au foyer de la préservation de la jeune fille, ce sera un petit peu plus de l'autre clientèle.
Donc, il faut arriver avec une recommandation.
Oui, avec une recommandation, littéralement. Okay. Et puis, elles seront instruites, ces jeunes filles-là. On va leur offrir des classes, une formation aussi ménagère, une formation autant d'instruction scolaire que ménagère. Et puis, éventuellement, les religieuses vont passer la main à des dames laïques. Et puis, ce sera des dames laïques qui vont poursuivre la gestion de l'œuvre. Et là, les religieuses deviendront bénévoles assistantes. Donc, les rôles s'interchangent.
Et là, vous nous parlez donc du secteur francophone. Est-ce que du côté des anglophones, il va y avoir aussi de ces refuges pour jeunes filles, entre autres?
Oui. Il y a un grand refuge qui est notable pour la communauté anglo-protestante, et c'est le Ladies Protestant Home, qui a été fondé en 1859 et qui a perduré jusqu'en 1989. Donc, c'est un autre refuge à une très, très longue longévité, hein, 150 ans pile, en fait, 140 ans, pardon. En 1857, 2 ans auparavant, des dames patronesses anglo-protestantes, donc des dames de la bourgeoisie de Québec, fondent la Ladies Quebec Protestant Relief Society, donc la société d'assistance aux dames des protestantes des dames de Québec. En fait, ce qui est, c'est que c'est un pendant vraiment anglo-protestant de la société Saint-Vincent-de-Paul. On va visiter les familles, on va secourir les gens en difficulté, les sans-abri, les gens qui sont abandonnés. On va distribuer de la nourriture, du bois, de l'argent, des vêtements. Et on fait vraiment office de mission de Saint-Vincent-de-Paul anglo-protestante.
Donc, on va vers les gens, mais il n'y a pas encore de bâtiment.
Pas encore de bâtiment. Pendant 2 ans, c'est ce système-là qui est à l'œuvre. Puis, en 1859, on achète une maison sur Grande Allée, vraiment au coin de la rue Cartier. La maison, le manoir, devrais-je dire, est encore debout, vraiment en face de Cartier sur la Grande Allée. Et là, on va un peu changer de mission. Alors qu'on était sur les services aux familles, on va vraiment devenir un refuge pour jeunes filles, mais aussi pour femmes adultes. Le Ladies Protestant Home va pouvoir accueillir environ une quarantaine de personnes de toutes les confessions protestantes de la ville, que ce soit anglican, luthérien, presbytérien. On accueille tout le spectre protestant, on les accueille tous. Cette œuvre-là, elle ne fera pas seulement office de refuge parce que c'est un bel exemple, ça, pour la communauté anglo-protestante. Alors qu'elle est moins nombreuse à Québec de par le nombre, cette communauté-là, elle sera plus portée non pas à fonder une suite d'œuvres qui étaient très, très spécialisées, mais plutôt des œuvres plus larges qui sont multiservices. Et donc, comme le Ladies Protestant Home ne sera pas seulement refuge, mais sera aussi orphelinat pendant quelques temps entre ses murs. Il va aussi développer, pardon, d'autres liens avec d'autres institutions protestantes pour gérer un peu tous les besoins sociaux de l'enfance et de la jeunesse pour la communauté anglo-protestante de Québec.
Et donc, ça va être une œuvre phare qui va durer jusqu'en 1989.
Elle part un peu de son statut de refuge que nous étudions présentement parce qu'au fil du temps, bon, la clientèle anglophone décroît de par le nombre parce que la population anglophone décroît aussi. Petit à petit, ça va devenir de plus en plus un foyer pour personnes âgées dans les dernières décennies de l'existence de l'œuvre. Mais elle va quand même se maintenir jusqu'en 1989, notamment grâce à un grand apport de la charité privée à Québec, de grandes familles commerçantes anglophones comme les Renfrew, de Haute Renfrew, et notamment cette famille-là sera parmi les grands donateurs de l'œuvre qui vont permettre de poursuivre la mission pendant de longues années.
Et justement, vous amenez de vous-même le sujet, comment on finance ces œuvres-là? Parce que là, on a énuméré, présenté une nébuleuse d'œuvres de différents horizons, francophones, anglophones, donc protestants, catholiques. Mais comment fonctionne tout ça, surtout quand on dure sur des centaines d'années?
Hein? Oui, il y a vraiment une distinction à faire. Il y a le financement avant 1921 et le financement après 1921.
Et 21 est une date, une
rupture? 1921, d'avancement, devrait-on dire, pour ceux qui l'ont vécu, le gouvernement provincial vote la loi de l'assistance publique en 1921. Et donc, ça permet que les œuvres et les services impliqués, non seulement dans les services sociaux, mais aussi dans la santé et tout ça, de recevoir un financement au prorata du nombre d'individus assistés. Si on a 10 personnes, on va recevoir, par exemple, 25 sous par jour, par personne, selon la catégorie de services que l'on a.
Et le 25 sous, c'est pas un hasard. Vous avez lu ça quelque part?
Ah oui, non, à l'époque, c'est très, très peu. Là, hein.
Ça peut exister là, à l'époque,
oui.
Là,
comme subvention. Ça pourrait être 7 ou 10 sous à l'origine. Selon les catégories, on va privilégier les catégories plus en difficulté au tout début parce qu'on commence par le soulagement de la misère avant sa prévention. Et donc, avant 21, le financement, il est totalement privé. On se fie à la bonne charité privée des citoyens de Québec et on fait preuve de beaucoup d'initiatives pour essayer d'attirer, faire des quêtes, faire des activités. On tisse des liens avec la Société Saint-Vincent de Paul, avec les Chevaliers de Colomb, par exemple, les Filles d'Isabelle, etc. Après 1921, certains refuges vont être déclarés d'assistance publique parce qu'il faut faire sa demande, ce n'est pas automatique. Certains refuges seront nommés d'assistance publique très rapidement. Par exemple, le Ladies Protestant Home, dont on vient de faire mention, est déclaré d'assistance publique en 21. D'autres refuges, comme l'asile Sainte-Madeleine, dont on a parlé précédemment aussi, n'est reconnu d'assistance publique qu'en 1950. Hein? Sans qu'on sache trop pourquoi, c'est un volet de la recherche qui reste à approfondir. Et donc, la charité privée demeure essentielle quand même après 1921 pour pouvoir subvenir. Parce que bien souvent, l'argent que le gouvernement donne au prorata d'individus est vraiment insuffisant, est considéré insuffisant. Et en faisant des quelques calculs pour le coût de la vie d'alors, avec les chiffres d'alors, on se rend bien compte que c'est vraiment un montant qui subvient à peine à nourrir les jeunes et à quelques soins de base. Pour les habiller, c'est déjà limite. Là, si on ajoute l'habillement dans ce petit budget qu'on pourrait dessiner. Et donc, certaines œuvres n'auront pas le choix, ils vont prendre certaines grandes initiatives. On a parlé du Buffet Rouge tout à l'heure, de l'œuvre Notre-Dame du Bon Conseil et de ses maisons connexes. Certaines auront moins la main heureuse, devrait-on dire, et ne connaîtront qu'une existence très qu'éphémère. Par exemple, le foyer Saint-Mathieu, qui a existé à l'emplacement actuel du centre Lucien Borne, et a n'existé qu'une dizaine d'années environ, et a disparu faute de financement suffisant. Donc, hein, c'est très, très difficile, même après l'époque de l'assistance publique.
Et des Gilbert, nous arrivons déjà à la fin de cette première émission. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette question des refuges pour la Ville de Québec durant ce siècle 1850-1950, en quelques mots?
C'est vraiment, on tisse une toile pour à la fois encadrer, oui, orienter les jeunes femmes qui sont en recherche d'emploi, aider aussi les quelques garçons, il y aura quand même des refuges pour garçons, et on veut les aider, mais tout en les surveillant, hein, tout en guidant leur action pour s'assurer quand même de leur moralité, de leur honnêteté. Donc, c'est à la fois un acte d'assistance, mais aussi un acte de surveillance. Il faut aussi voir tous les liens de collaboration entre laïcs et religieux. Hein, aujourd'hui, dans les années 60-70, on a laïcisé à profusion, mais alors qu'on avait un système qui était séculaire, hein, plus d'un siècle d'existence, de collaboration entre laïcs et religieux, qu'il faut noter l'importance et l'efficacité quand même. Hein, sans financement public, ils ont duré parfois plus de 100 ans. Des refuges qui sont majoritairement de petite taille. Hein. Ce n'est pas un modèle institutionnel. Ce ne sont pas comme les orphelinats où l'on a 300-350 enfants. Mm-hmm. Ce sont des refuges de petite taille et finalement une présence très importante des dames, hein. Que ce soit les dames, les mères de famille, de milieux populaires qui donnent 2-3 heures de leur temps jusqu'aux dames patronesses des classes plus aisées qui vont fonder et gérer les œuvres.
Des Gilbert, merci beaucoup. On se revoit la semaine prochaine pour la suite de cette émission. Merci à Daniel Coulombe pour la mise en onde et à Mario Blouin pour le choix musical. Revenez-nous la semaine prochaine pour une autre émission de Vision d'Histoire.